שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. C'est-à-dire qu'on doit se préparer à la fête de Pessah 30 jours auparavant. Pourquoi? Parce qu'en effet, la fête de Pessah, elle est si importante, tout d'abord par le nombre de halakhot qui sont complexes et qui sont importantes, que ça nous demande de nous préparer 30 jours auparavant, à commencer depuis le jour de Purim. Deuxièmement, parce qu'en effet, la préparation, elle n'est pas uniquement dans le domaine de halakhot, mais aussi dans le domaine des commentaires, des midrashim, du moussa, de l'agata. Top. Alors à cela, disent les commentateurs qu'il y a en général dans la Torah, dans le judaïsme, dans n'importe quel domaine, on doit se préparer, pour n'importe quelle mitzvah, on doit avoir une préparation qui est double, pas dans deux domaines différents. Un domaine s'appelle la halakha, l'autre il s'appelle, n'est-ce pas, le moussa, la agata. C'est-à-dire quoi? La halakha, c'est ce qui est permis, ce qui est interdit dans chaque mitzvah. C'est la structure halakhique extérieure de la mitzvah. Savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit de faire le Shabbat. Savoir comment est-ce qu'on fait la tfila. Savoir, n'est-ce pas, les tfilines. Dans quel domaine les tfilines vont être cachères ou alors vont être pasoul. Ça, c'est comparé à un bâtiment. Tu es en train, ça s'appelle binyan, c'est une construction. Eh bien, tu es en train de poser des pierres et des briques l'une sur l'autre. Tu es en train d'édifier un bâtiment. Et le bâtiment, évidemment, il ne pousse pas comme des arbres ou comme des plantes, mais pas, il est structuré, il va conserver la taille et la forme que tu lui as donnée auparavant. Zenikra binyan, ça s'appelle la construction. Gam zenikra binyan ha'adam. La construction, l'édifice d'un être humain, se façonner, se forger une personnalité dans la Torah, dans les mitzvot, eh bien, ça doit être basé sur le domaine de la halakha, respecter la halakhot de chaque mitzvah. Parce qu'en effet, si on fait une mitzvah sans respecter la halakhot, ce n'est pas une mitzvah. Si quelqu'un il met des tefilines et les tefilines sont psoulot, ce n'est pas des tefilines. Donc, il n'a pas commencé à faire la mitzvah. Deuxième domaine, c'est les commentaires. Les commentaires de chaque mitzvah, expliquer le comment et le pourquoi, les midrashim, les explications. Et ça s'appelle tzmicha. Et c'est comparé quoi? C'est comparé à une poussée comme des végétaux, qui ne sont pas inertes, qui ne sont pas structurés uniquement de la structure initiale qu'ils avaient, mais qui grandissent et qui poussent au fur et à mesure, petit à petit. Bien pareil aussi. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, tout d'abord, dans les commentaires, on va dire qu'il y a une certaine souplesse. Ce n'est pas qu'on peut dire n'importe quoi, chas v'shalom, mais c'est que, on va dire, c'est moins structuré que la halakha. Et donc, on peut des fois expliquer telle mitzvah de telle façon ou d'une façon différente. Deuxièmement, c'est une smicha qui se réalise, et ce qui est le plus important, ça se réalise dans notre personnalité. C'est-à-dire que lorsque tu vas intégrer, pénétrer dans le commentaire, l'explication, le sens profond de la mitzvah, que ce soit Pessah, la Torah, la Tfila, les Tfilines, le Shabbat, la Kashrut, n'importe quelle mitzvah, l'Ulav, Souka, Matzah, eh bien, tu peux petit à petit, en comprenant la mitzvah, en étudiant les textes, les midrashim, les commentaires, le moussar, la gata sur chaque mitzvah, eh bien, tu vas, n'est-ce pas, tu vas intégrer en toi certains commentaires qui vont te permettre à toi de réaliser une certaine poussée comme ces plantes. Tzmichat ha'adam. C'est-à-dire que tu vas toi-même grandir avec cette mitzvah. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire la mitzvah comme des robots. Tu fais la mitzvah de façon sèche, de façon structurée, et c'est tout. Non, on te dit attention, une fois que tu fais la mitzvah, eh bien tu dois avancer, progresser dans la mitzvah. On va prendre un exemple simple et concret pour illustrer cette chose-là. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, on fait tous le Shabbat. Alors, le Shabbat, eh bien, on doit tout d'abord respecter les halakhot du Shabbat. Savoir ce qui est permis, ce qui est interdit de réaliser et de ne pas faire, et le respecter. Ça, c'est l'halakha. Ensuite, il y a comprendre ce que c'est le Shabbat. Pourquoi est-ce que la Torah interdit tellement de choses à faire le Shabbat? A priori, je peux plus me reposer si je prends la voiture ou si je prends l'ascenseur. Alors bon, on t'explique qu'il ne s'agit pas du repos du corps, mais du repos de l'âme. Il faut absolument se détacher de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est, n'est-ce pas, création de tel ou tel melacha, de pas créer quelque chose. Bon, je dis ça brièvement. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, se détacher de tout cela pour que ton âme puisse rejoindre sa source initiale, se recueillir avec elle-même et pouvoir se rapprocher d'Hachem. Alors tu commences à comprendre ce que c'est le Shabbat. Lorsque tu le réalises, tu fais le kiddush et tu dis des divrei Torah et des chants, petit à petit, après quelques mois, quelques années d'application du Shabbat, ainsi que de compréhension pourquoi est-ce que la Torah te demande de faire cela, pourquoi est-ce que la Torah interdit, et des perushim sur le Shabbat, après 3 mois, 6 mois, 1 an, ton Shabbat, il a été transformé. C'est un autre Shabbat. C'est-à-dire que tu as avancé, tu as poussé comme un arbre qui a poussé, qui a grandi, qui faisait au départ 1 mètre, 2 mètres et 10 mètres, et ensuite il donne des fruits cet arbre-là. Toi aussi tu donnes des fruits. Tu commences à comprendre, tu commences à avoir un certain goût pour le Shabbat. Ton Shabbat c'est différent. C'est une poussée, c'est une krat smichat Adam. Eh bien toi tu arrives à avancer dans ce domaine-là. Tu es un homme différent par rapport à ce Shabbat. Automatiquement, si le Shabbat, lorsque tu as commencé à le réaliser, c'était pour toi une obligation, c'était pour toi un jour qui était difficile à supporter, après quelques mois, c'est devenu un kiff, c'est devenu extraordinaire. Zenikrat smichat ha'adam, betor ha'mitzvah. C'est l'homme, il a avancé, il a poussé, il a grandi dans la mitzvah, par rapport à la mitzvah. Top. Alors, ça, pardon, je ferme la parenthèse, ça c'était pour toutes les mitzvot. Alors, surtout, quand on arrive à Pessah, eh bien, on doit aussi appliquer cette règle générale, et encore plus que pour d'autres mitzvot. C'est-à-dire que lorsque Pessah arrive, alors on se prépare 30 jours à l'avance. On commence à s'intéresser au halakhot de la fête de Pessah. Le chametz, la matzah, on doit brûler le chametz, l'exterminer, le chercher, etc. On doit faire la matzah, bon, on doit kachériser la cuisine, on va se préparer à ce qui s'appelle la seder. Bon, beaucoup d'halakhot à respecter, entre parenthèses, on parlera encore de ça, Bezrat Hashem. Le Golem Vina nous dit que du CDR, eh bien, on réalise 63 mitzvot différentes. En une soirée, depuis la Tfila de Arvit jusqu'à la fin du CDR, on réalise 63 mitzvot, uniquement 2 mitzvot minatora et 61 mitzvot miderabanan. Minatora, c'est manger la matzah minatora de nos jours. Et deuxième mitzvah, c'est de raconter la sortie d'Égypte aux enfants, à la famille, à soi-même. C'est aussi mitzvah minatora. Le reste, c'est Midrabanan. Encore 61 mitzvot Midrabanan en une seule soirée. Top. Alors, on se prépare à tout cela pour connaître, pour appliquer tout à la route. Deuxièmement, il y a ce qui s'appelle, ce qu'on a dit de Smicha, c'est-à-dire que s'intéresser aux commentaires de la Haggadah de Pessah. S'intéresser à la fête de Pessah. C'est quoi? Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Pourquoi est-ce qu'on doit fêter cette fête chaque année pendant 7-8 jours? S'intéresser au commentaire Vezinikrat Smichat Adam. Là, on peut avancer, progresser. Alors, non seulement on pourra, n'est-ce pas, avancer, progresser depuis Purim jusqu'à Pessah pour passer un Pessah différent, et pendant les 7 jours, surtout lorsqu'on va vivre intensément la fête de Pessah, eh bien, cette fête pourra nous transformer. On va encore en parler de Bezrat Hashem. C'est que la fête de Pessah, elle peut, doit nous métamorphoser. Mais non seulement cela, eh bien, d'année en année, on peut réaliser en nous une certaine transformation par rapport à notre personnalité, afin que le Pessah de cette année soit différent que le Pessah de l'an dernier. C'est comme l'arbre qui a poussé, qui a grandi, qui donne des fruits. Eh bien, nous aussi, le Pessah d'aujourd'hui, ce n'est pas le Pessah d'il y a un an ou d'il y a 10 ans. C'est-à-dire que d'année en année, on doit avancer. Top. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors tout d'abord, bon, on va ramener, n'est-ce pas, le Ramchal. Le Ramchal, ah bon, on l'a cité plusieurs fois, mais il faut le citer à chaque fête. Il dit le Ramchal, lorsque on est en train de fêter une fête, lorsque Hachem nous demande de fêter des fêtes comme Pessah, Shavuot, Sukkot, eh bien il ne s'agit pas uniquement de se souvenir, de commémorer un événement qui s'est passé il y a plus de 3300 années, ce qui arrive à nos ancêtres, mais ça consiste surtout essentiellement à vivre à nouveau cet événement qui est arrivé à nos ancêtres, c'est-à-dire que cet événement, c'est comme s'il est en train de se renouveler à présent, et va nous permettre d'avancer, de bénéficier des influences divines et spirituelles qu'ont bénéficié nos ancêtres à cette époque, à cette période. C'est-à-dire que lorsque Pessah arrive, eh bien on te dit à l'avance, attention, pendant 7-8 jours, tu pourras être transformé comme tes ancêtres ont été transformés. Tu pourras avancer, grandir, tu pourras progresser dans certains domaines, qu'on va expliquer, de la même façon que nos ancêtres l'ont réalisé. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Rambam Maïmonide dans Ilchot Hametz Matzah Perek Shvi'i. Bechol dov lado chayav adam lirot et asmo, larot et asmo, kilu ba'atzmo yatsa ata mi shibud mitzrayim. Alors sachez, Rabotai, c'est que dans toute la halachot de Pessah, dans toute la préparation à Pessah, eh bien, la notion la plus importante et la plus complexe et la plus difficile à réaliser, c'est celle-ci. Il dit le Rambam, de toute génération, un homme est tenu de considérer, de voir, de se voir, comme si lui-même est sorti à présent de l'esclavage d'Égypte. Comme si lui, il est sorti d'Égypte cette année. Shenemar, votanu, otsimisham, vegomer. Top. Alors, comment est-ce que on va le réaliser? Ça consiste à quoi? Parce que bon, on n'est pas esclave, on n'est pas en Égypte. Ça veut dire quoi? On te dit, tu dois te considérer, te voir comme si toi-même, tu étais en Égypte et tu as été libéré. Top. On va essayer d'expliquer ça à notre niveau. Top. Qu'est-ce que c'est un homme libre? Un homme libre, c'est quoi? Un grand penseur a dit il y a quelques dizaines d'années que la démocratie a permis à l'être humain, à la société, de faire ce qu'il voulait, de faire ce qu'il veut. Il n'y a plus de royauté, il n'y a plus de dictature. On te dit, n'est-ce pas, liberté, égalité, fraternité, fais ce que tu veux, on est en démocratie. Fais ce que tu veux. Mais cependant, ce monde moderne a dicté l'homme que vouloir. On lui dit, fais ce que tu veux, mais on t'a dicté que vouloir. Donc, ça veut dire, c'est pareil, et c'est peut-être pire. On va expliquer, ça veut dire quoi? Une petite parenthèse. On te dit, fais ce que tu veux. Et lorsque dis je fais ce que je veux, ça veut dire ce que, n'est-ce pas, j'ai envie de réaliser à présent, ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas un roi qui me l'a imposé, mais c'est ce que moi j'ai envie de le faire. Bon, ok. Alors ça pourrait être bien, ça pourrait être agréé, agréable, ça pourrait être réalisable, ça pourrait être une certaine noblesse de l'être humain, de la société, mais à condition que ta décision... Vraiment, elle découle de ce que tu penses personnellement, de ce que tu veux, de ta volonté personnelle, intérieure, individuelle, indépendante. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? De nos jours, qu'on le veuille ou pas, on est en train de subir, du matin au soir, ce qu'on appelle un lavage de cerveau par la technologie, le monde moderne. Ça veut dire quoi? Eh bien, du matin au soir, tu as la radio ou la télé, ou les slogans publicitaires, ou les journaux, qui sont en train de te faire un lavage de cerveau dans 36 domaines. On est en train de t'influencer, de te convaincre que c'est plus intéressant d'acheter tel produit plutôt que tel produit. Tel aliment, il est meilleur que l'autre dans la qualité, dans le prix. Tel magasin, il est plus avantageux que l'autre, etc. Et il y a même de grands psychologues qui sont en train de donner beaucoup de conseils à de grandes sociétés, à des magasins, comment convaincre les êtres humains pour acheter leurs produits? Comment agir sur notre conscient et notre subconscient pour que lorsqu'on va au magasin, eh bien on tende la main, de façon consciente ou inconsciente, vers tel produit? On est en train d'étudier, eh bien, comment est-ce qu'une personne réagit? Quelles sont les paroles? Quelles sont les sons, n'est-ce pas, les ondes sonores, quelles sont les lumières, etc., qui vont plus agir sur ta psychologie, sur ton subconscient, pour t'influencer, te convaincre d'acheter tel ou tel produit. Et donc, une fois que tu as subi ce lavage de cerveau pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien, que tu veux ou non, automatiquement, tu vas choisir tel produit. Bon, c'est vrai non seulement dans l'achat d'un produit, mais c'est aussi vrai par rapport à notre conduite quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on ne réfléchit plus. Et on le fait parce que tout le monde le fait. On l'achète, on le porte parce que c'est à la mode. Parce que un habit que j'ai acheté il y a à peine quelques mois ou quelques années, même si je l'ai mis au total deux ou trois fois, eh bien, je ne vais plus le mettre parce que c'est démodé. Et je vais me gêner de mettre un vêtement qui n'est plus à la mode. Et au contraire, je vais investir, passer du temps, de l'argent, pour acheter les habits, non pas que j'aime, que je préfère, mais ce qui est plutôt accepté par rapport à la société, ce qui est bien vu aux yeux des gens. Donc c'est ce que disait ce penseur-là, c'est qu'on te dit fais ce que tu veux, mais on est en train de te dicter que vouloir. C'est pas ce que tu veux réellement, c'est pas ce que tu désires de ta propre personnalité, mais c'est ce qu'on t'a dicté par les médias, par le monde moderne, ce qu'on t'a, n'est-ce pas, influencé par la façon de se conduire, de s'habiller, de manger, etc. C'est même vrai dans le domaine de la politesse, par exemple. Alors, on est tous des Français. Alors bon, c'est bien connu que les Français sont très polis. Bon, on appelle ça la politesse française. Bon, et c'est bien. On nous dit la Torah, « Delech Eretz Kadma la Torah ». Eh bien, il faut avoir du Delech Eretz, il faut être poli, et ça précède l'accomplissement de la Torah. Il ne faut pas une Torah sans Delech Eretz, il faut un Delech Eretz, et c'est une préparation à la Torah. Mais là aussi, cependant, il faut être prudent. Parce que là aussi, il y a, on va dire, des normes à respecter. C'est que, tout d'abord, si la politesse, elle est hypocrite, c'est plus une politesse. Si tu vas dans un magasin, et on te dit bonjour monsieur, bonjour madame, mademoiselle, s'il vous plaît, etc. Alors bon, c'est une politesse, mais ce n'est pas toujours sincère et réel, c'est uniquement pour qu'on achète tel produit, tel vêtement. Alors je ne dis pas que c'est faux, n'est-ce pas, que c'est hypocrite toujours, mais il est possible que ce que tu fais, ta politesse, c'est uniquement une hypocrisie pour retirer un quelconque intérêt de la personne qui est en face de toi. Deuxièmement, même sans être hypocrite, on peut des fois être poli parce qu'on est habitué à cela. Pas parce que réellement je te respecte, je t'honore, mais c'est la façon de parler qui est normale, qui est habituelle, qui est acceptée. Et si tu ne vas pas utiliser toutes ces formes de politesse, eh bien on te dira, monsieur, n'est-ce pas, écoutez, la politesse, n'est-ce pas, il y a une façon de parler, etc. Bon. Troisième problème, c'est que même s'il y a des formes de politesse à respecter, mais cependant, dans certains cas, dans certains pays, certaines villes, des fois c'est un peu trop exagéré. C'est-à-dire que, qui va décider quelles sont les formes de politesse à accepter, à adopter, à suivre? Alors on se rend compte, dans ce domaine-là, que chaque pays diffère dans ce domaine-là. C'est-à-dire que, dans un pays, ce qui est considéré comme poli, dans un autre pays, eh bien, c'est pas du tout poli. Non seulement d'un pays à un autre, ça va différer, mais aussi dans un même pays, d'une génération à une autre. Des fois, ce qu'on faisait il y a 500 ans, on ne le fait plus aujourd'hui, ou alors l'inverse. C'est-à-dire que, donc là aussi, n'est-ce pas, ce sont des formes de politesse qui ont été, on va dire, qui ont été gérées, habituées, dirigées par certaines personnes, par certains courants, et qui sont en train, n'est-ce pas, de diriger la société. Et ce n'est pas toujours évident que c'est la conduite à adopter. Et nous, on le fait sans réfléchir. Ou alors par hypocrisie, ou alors parce qu'on est habitué depuis notre jeune âge à cette forme de politesse. Et dans tous ces cas, ce n'est pas ce que la Torah nous demande. Et encore plus que cela, c'est que ce n'est pas une décision personnelle, ce n'est pas un chemin que tu as choisi, mais c'est ce qu'on t'a habitué de faire. Alors ce que la Torah nous demande, eh bien, c'est de vérifier chaque slogan, de vérifier chaque forme de politesse, de passer chaque conduite au peigne fin. Est-ce que, tout d'abord, c'est conforme, ça va de pair avec la Torah ou pas? Et la différence, c'est que la Torah, elle est divine. Ce n'est pas une convention qui a été adoptée, gérée, décidée par un certain groupe, par un certain courant, par une société, par un pays, par une génération, une civilisation, mais c'est une forme divine qui existe depuis des millénaires et qui est vraie jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne dis pas, la politesse est très importante. Ça, on l'a dans la Gemara, on a deux Masertot qui s'appellent Maseret Derretz Rabba, Derretz Zuta. On a deux Masertot, une petite, une grande, qui parlent du Derretz. On a aussi d'Alachot, un chapitre entier dans le Rambam, aussi un Sivanté Shulchan Aruch pour nous dire comment se conduire. Comment se conduire à table, de façon polie, etc. Mais dans ce domaine-là, on doit aussi se référer à la Torah et non pas tenir compte uniquement du pays dans lequel on vit. Que avant d'agir, on doit réfléchir. On ne doit pas continuer les habitudes de politesse et les habitudes pas de la mode et acheter n'importe quel produit, n'importe quel aliment parce qu'on a été influencé par tel slogan publicitaire. Parce que c'est la mode, parce que c'est l'habitude, parce que c'est la politesse, etc. On doit tout passer au peigne fin. Et c'est, en quoi ça me concerne pour Pessah ? Eh bien, lorsqu'on parle de l'esclavage d'Égypte, eh bien, c'est écrit que chaque génération, elle a sa forme d'esclavage. C'est écrit « Bechol do vador ». Dans chaque génération, eh bien, tu dois sortir de l'esclavage de telle ou telle génération. C'est-à-dire que on n'est plus esclave en Égypte. Mais des fois, on est esclave de la civilisation dans laquelle on vit. Alors, des fois, il y a des gens qui s'en plaignent. Ben, oui, j'aurais aimé mettre cet habit, mais je me gêne parce que c'est démodé. Alors, je n'ai pas le choix, eh bien, je mets un autre habit, et cet habit que je l'ai payé si cher, eh bien, je dois le jeter. Je n'ai pas le choix. Eh bien, ça s'appelle un esclavage, une avdoute, c'est que tu n'es pas libre de penser et d'agir comme tu le désires, comme tu le penses réellement, mais ta pensée, ta conduite, ta parole va dépendre de ce que pensent les autres. Alors, entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'on doit jamais tenir compte des autres. Je ne dis pas que non. C'est vrai que dans certains cas, on doit tenir compte des autres pour les respecter, pour les honorer, etc. Et là aussi, on se réfère à la Torah pour vérifier est-ce que dans ce contexte précis, je dois tenir compte de cette personne-là ou pas. Est-ce que faire ceci ou faire cela, ça va le respecter ou ça va l'offenser, par exemple. Mais je parle de façon générale, c'est que notre façon de réfléchir, de penser, d'agir, qui est dictée, gérée, dirigée par la mode, par les slogans publicitaires, par la façon de se conduire, par la civilisation, eh bien, on manque de liberté. C'est un esclavage, on te dit fais ce que tu veux, mais on est en train de te dicter de A à Z que penser, comment agir. Il y a aussi des gens qui s'en fichent de la mode de la société. Ils se conduisent comme ils veulent. On n'a qu'à penser, dire de ce qu'ils veulent. Bon, ils s'en fichent. Bon.
Alors. Les gens sont libres.
Ok. C'est. Oui et non. Oui et non. Tu vois, ça dépend pas. Des fois, il y a des gens, ils font spécifiquement le contraire de ce que tout le monde fait. Voilà. Pour se mettre en relief. Parce que, par exemple, des gens qui sont complexés, ou alors qui ne sont pas appréciés par leur entourage, qui n'occupent aucune place importante, la seule façon, à l'instant, la seule façon qu'il a de se donner une importance, c'est que les gens le regardent d'une façon bizarre, il est marginal, il est différent, bien qu'il est bizarroïde, mais c'est ce qui va lui donner cette importance imaginaire. Alors des fois, c'est encore pire, parce que cet homme-là, il est esclave de la valeur qu'il espère, la valeur et l'estime qu'il espère avoir aux yeux de la société. Dans tous les cas, la Torah te demande de réfléchir, de méditer, de remettre tout en question, de passer tout au peigne fin. Je te dis, attention, avant d'agir, avant de parler, avant de réfléchir, réfléchis et médite. Pourquoi est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je le fais? J'ai fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai agi de telle façon. Ok, on va tout remettre en question. Est-ce que mon chemin, il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que je suis dans la vérité ou pas? Il s'agit de faire, de marquer un temps mort, de s'arrêter, de réfléchir, est-ce que la direction est bonne ou pas? On est plusieurs fois le machal, quelqu'un qui arrive à la gare et qui voit que le train qu'il doit prendre est en train de démarrer. Alors il prend son sac sous son bras et se met à cavaler, à courir, jusqu'à ce qu'il arrive miraculeusement à sauter et rentrer dans la dernière porte du dernier wagon. Il s'installe, il est soufflé, train transpiré, il est content. Une fois qu'il s'est installé, il s'est rendu compte qu'il a pris le train en sens inverse. Comme c'est un TGV, il est bien coincé, il doit attendre quelques heures pour la prochaine station. Ben, il a perdu l'aller et le retour. Alors bien souvent, ça nous arrive. C'est qu'on est en train de courir, de se précipiter, on est stressé, on ne réfléchit pas, et on va en sens contraire. On n'est pas dans la vérité. Alors ce qu'on te demande, à Pessah surtout, attention, ne sois pas esclave de la mode, de la civilisation, des habitudes, de la façon de se conduire sans réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce que ton chemin, il est bon ou pas? Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que tu es habitué, parce qu'on t'a éduqué comme ça, parce que tout le monde le fait, parce que pas, je veux être un rebelle, parce que je veux être remarqué par la société. Là aussi, il faut décortiquer, analyser en soi d'où provient cette conduite. Pourquoi est-ce que j'ai envie, n'est-ce pas, de me conduire, de m'habiller comme un clown? Est-ce que la pensée, c'est une pensée qui est logique, qui est cartésienne, qui est droite, qui est précise, qui est normale, ou alors c'est une pensée qui est tordue? Et le problème, c'est ça, c'est qu'en général, on ne réfléchit pas. On agit comme ça, comme si, au hasard, sans réfléchir. On achète les habits comme ça, même si on réfléchit. Mais, tiens, inconsciemment, on a déjà décidé d'acheter tel ou tel habit pour bien passer par la société. Et des fois, on ne se rend même pas compte. C'est que ce qui va diriger notre achat, notre décision, c'est uniquement selon la façon dont on va être vu, apprécié par les camarades ou la famille, etc. Alors, tout d'abord, n'est-ce pas, c'est que la première étape à réaliser, c'est se rendre compte qu'il est très possible, et bien que la vie moderne nous a rendus esclaves. On t'a dit, fais ce que tu veux, mais on t'a dicté que vouloir. Alors, ce que tu veux, ce n'est pas réellement ce que tu veux. C'est ce que tu as été habitué à penser, à vouloir. Ce n'est pas uniquement, on ne t'a pas dit que vouloir, on t'a même dicté comment penser, comment réfléchir. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui le disent, il y en a qui le pensent, des fois qui font des fêtes, qui leur reviennent un prix exorbitant, que ce soit un mariage, une bar mitzvah, ou des fiançailles, etc. Et ils le font. Des fois, ils sont endettés pendant des années. Pendant des années, que ce soit en Israël, ou alors en France, ou autre dans le monde. Et ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que s'ils font quelque chose de plus modeste, eh bien, ils se gênent, ils vont être mal vus par la société. Là aussi, c'est un problème, c'est une forme d'esclavage. Alors, je ne dis pas, je veux dire, il est vrai qu'il y a aussi, on doit aussi, tu invites des gens, il faut les honorer, les respecter. Mais là aussi, il y a des normes à respecter. Alors, pas des fois, je veux dire, c'est que, bon, alors, ça demande de chaque cas, chaque cas différent à traiter, à part. Mais, de façon générale, lorsqu'on est pris dans le courant, on ne réfléchit pas, on le fait, et on est prêt des fois à souffrir, à subir, pendant, n'est-ce pas, des dettes, pendant des années, et des fois, c'est sur le compte de la famille. Des fois, n'est-ce pas, on peut même priver ses propres enfants parce qu'on lui a fait une bar mitzvah du tonnerre. Et lui, il s'en ficherait de la bar mitzvah qui a coûté des millions. Parce qu'après, n'est-ce pas, pendant 5 ans ou 10 ans, ses parents, ils sont endettés, ils n'ont même pas la tête de s'occuper de lui, ils ne lui achètent pas ce qu'ils doivent lui acheter, ce qu'il mérite réellement. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait une bar mitzvah du tonnerre, parce que la famille, les amis, etc., patati patata. Alors là aussi, des fois, on est pris dans un courant, et on ne se rend pas compte. Et on peut faire, n'est-ce pas, du tort à un enfant, soi-disant pour lui faire du bien, pour lui faire une belle fête, alors il fait le contraire. Alors, je répète, je ne dis pas, n'est-ce pas, qu'il faut faire une bar mitzvah modeste, un mariage modeste, ou en grand, je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir. Avant de se jeter sur une conduite sans réfléchir, sans méditer, il faut remettre tout en question. Comment le faire et pourquoi le faire? Pourquoi est-ce que je dois le faire comme ça? C'est la première étape à passer pour Pessah quand on te dit, attention, tu dois sortir d'Égypte. Entre parenthèses, dans la grammaire hébraïque, alors on appelle ça Yetziat Mitzrayim, sortie d'Égypte. Alors en fait, la traduction elle est fausse. C'est que sortie d'Égypte, on aurait dit Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est quoi? C'est tu dois faire sortir l'Égypte de toi. Yetziat Mitzrayim. sors cette Égypte de toi, n'est-ce pas? L'Égypte de nos jours, c'est rien, c'est un pays qui n'est pas réussi. Mais dans le temps, c'était la première puissance mondiale. C'est-à-dire que pas, il y avait le plus de sagesse, le plus de philosophie, le plus de, on va dire, de progrès dans ce pays-là. Et cette Égypte, Mitzrayim, Gamilachan, Metzar. Metzar, c'est comme une barrière, une barricade. On est plus ou moins barricadé par ces structures, n'est-ce pas, ces sanctions de la société, par ce courant qui nous pousse, qui nous traîne, qui nous tire contre notre gré. Et là, on te dit, attention, sors de l'Égypte, fais sortir ce Metzar, fais sortir ces barrières de toi. Il faut enlever ces barrières. Alors, je répète, ça ne veut pas dire, fais ce que tu veux, en fichant de tout le monde, sois marginal, fais le fou, fais le clown, c'est pas ça du tout. Attention, on te dit, réfléchis, ne fais pas les choses de façon insensée, de façon irréfléchie, ne va pas, ne te conduis pas à l'aveuglette, mais remets-toi en question et réfléchis. Maintenant, comment est-ce que la Torah nous transforme en un bon livre? On en parlera, vous êtes encore.